I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui nous sommes en décembre 2020, c'est l'épisode 380 si je sais encore compter. Et nous avons deux invités absolument formidable pour parler de tous les sujets tech de cette semaine, notamment Warner Brothers qui annonce qu'ils vont mettre leurs films en streaming à disposition en même temps que les sorties ciné aux US. On va aussi vous détailler l'histoire du renvoi slash scandale autour de Timnit Gebru, une recherche en intelligence artificielle chez Google qui a un petit peu fait l'effet de l'effet Barbara Streisand, une histoire bien intéressante. On parlera également de plein d'autres choses, hein. Samsung qui va peut-être pas faire de Galaxy Note, Cédric O qui voudrait peut-être arrêter, interdire le lancement automatique des vidéos, etc., etc. Plein de sujets intéressants. Mais donc, comme je le disais, mes invités absolument formidables. On commence avec le doyen Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric?
J'ai l'impression d'être à deux doigts de la retraite quand tu dis ça, le doyen.
Écoute, oui, je crois que tu es notre doyen. Très bien. Je crois qu'on se bat, on n'est pas loin tous les deux.
Oui, mais... de nous trois, je veux dire, mais ça va, je suis pas... voilà.
Le doyen, tu prends offense à ce terme. Ok, très bien, je le retiens.
Non, je prends pas offense, mais je veux dire, j'ai pas encore réservé ma concession au cimetière du coin, quoi, tu vois, donc tout va bien, vraiment, c'est, voilà, mais je suis ravi de représenter, je sais pas, la sagesse et l'expérience.
C'est ça, merci beaucoup Cédric. Et pour représenter la jeunesse et l'enthousiasme, nous avons de l'autre côté la Benjamine, Lucie Ronfaux, je crois, hein, je verras, je sais pas du tout.
je cache très bien mon âge.
Comme je le disais, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai une super review de Cyberpunk 2077 sans y avoir joué, qui vient d'être publiée. Et sur la chaîne YouTube, il y a des gens qui m'ont dit comme commentaire « Oh, ça me fait bizarre de voir un daron jouer aux jeux vidéo !» Et je me disais « Mais suis-je vraiment dans cette catégorie ?» Bah, il semble. Donc pardon, oui, Lucie, merci d'être avec nous pour nous énergiser un petit peu.
Ouais, merci de m'avoir invité.
Je suis très heureux de vous avoir tous les deux. Avant de se lancer dans les sujets, on va quand même remercier les auditeurs qui participent au financement de l'émission. J'ai nommé, ou je nomme maintenant, Philippe Chartrez, Gabriel Jung, FX Chéri, Thierry Cyril Pradel, Cédric, Sébastien, Laurent JRS, Pierre Saumon, Guillaume Père et les soutiens producteurs de l'émission, Aounchi Oshova, Rémi X, Franck Matignon et Shulrak. Merci à vous tous de soutenir le Rendez-vous Tech. Alors, le premier sujet dont on va parler, c'est donc cette annonce que vient de faire Warner Brothers du fait qu'ils vont publier tous leurs films de 2021 à la fois au cinéma et sur la chaîne qui fait partie du groupe HBO Max, qu'on n'a pas vraiment en France. Et à vrai dire, le truc, c'est que pour la France, ça pourrait pas marcher, étant donné la chronologie des médias qui interdit à un film de sortir en streaming en même temps qu'au cinéma. C'est beaucoup moins régulé aux États-Unis. Mais c'est quand même l'aboutissement d'une tendance qu'on voyait arriver depuis des mois et des années et qui a peut-être été parachevée par la pandémie de 2020, qui est que les films, on se pose la question de savoir s'il y a un intérêt à les sortir au cinéma ou en tout cas si on a vraiment intérêt à avoir un délai entre la sortie au cinéma et les autres formes de consommation de médias. Warner Brothers aura peut-être une réponse à cette question dans le courant de l'année 2020 avec leur test. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vais faire honneur aux jeunes et proposer à Lucie de nous dire ce qu'elle en pense en premier. C'est une bonne idée. Je sais que ça s'explique par plein de raisons, mais qu'est-ce que tu en penses?
Alors, je ne vais pas avoir un avis très professionnel sur le sujet parce que je t'avoue que je n'ai pas, j'ai pas été amenée à traiter le sujet plus que ça. À titre perso, moi, c'est clair que je n'ai pas mis les pieds dans une salle de cinéma depuis le mois de janvier, je pense.
Ouais,
facilement. Donc, c'est une certaine logique. Après, j'imagine aussi que c'est une décision qui est aussi inquiétante, hein, pour l'industrie du cinéma, parce que c'est l'industrie qui repose quand même en partie sur l'exploitation des films au cinéma. Donc c'est pas illogique, mais je selon de quel côté on se place. Du côté des consommateurs, c'est une bonne nouvelle. Du côté des professionnels du cinéma, c'est peut-être plus compliqué, quoi.
C'est la grande préoccupation et c'est ce qui fait qu'en France, on a cette chronologie des médias qui est là pour protéger effectivement les opérateurs de cinéma. J'aurais presque envie de dire la culture du cinéma à laquelle on tient beaucoup en France. Cédric, toi, tu penses que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Est-ce que ça... Bon, je ne sais pas si ça pourrait se passer en France, mais... À vrai dire, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que dans la chronologie des médias, si on sort le film d'abord en streaming, parce qu'on a bien le droit de faire ça, et que genre le lendemain on le met à disposition des opérateurs de salles de ciné s'ils veulent, est-ce que c'est possible ou pas ? Je ne sais pas. Mais
alors attention, ce serait possible si les distributeurs et les salles étaient d'accord. En fait,
bien sûr, mais légalement, je veux dire.
c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on n'a jamais... C'est intéressant et créatif comme idée parce qu'on n'a jamais, je pense, envisagé les choses sous cet angle-là.
Ouais.
C'est-à-dire, ça fait
voilà,
longtemps qu'on
merci.
Dit... Tiens,
Cédric, que les films Patrick, vont sortir. Tu définis ouais. bien Patrick. Intéressant et créatif, je pense qu'on pourrait mettre ça sur la pochette de sortie du podcast. Patrick, intéressant et créatif. Merci beaucoup, Cédric.
Par exemple, oui, c'est ça. Comme nouveau, j'essaie d'expliquer à des gens comment on choisissait les sujets en presse, qu'est-ce qui fait que c'est un sujet ou pas un sujet. Et je dis d'ordinaire, il faut que ce soit nouveau et intéressant. tu peux reprendre ça aussi. Mais c'est vrai qu'on s'est souvent posé la question sous l'angle de est-ce qu'il faut que les choses soient plus rapidement disponibles en streaming après leur sortie en salle. Mais en fait, on n'a jamais touché au totem qui est la sortie en salle. Ou alors, c'est juste que, voilà, t'as des films... Avant, c'était des films de seconde zone. Tu vois, les trucs qui sortaient, comme on disait, straight to video. C'est-à-dire, je sais pas, le troisième épisode de Pocahontas que personne regarde, enfin, ce genre de choses. Et là, comme sur mille autres choses, la pandémie a joué son rôle d'accélérateur. C'est-à-dire qu'on est passé directement de 2020 à 2030. Et on a vu Disney+, qui, avec Mulan, avait dit « Bon, bah, les salles sont dans l'ensemble fermées, et même celles qui sont ouvertes, personne ne met les pieds dedans. » Donc, on a une grosse sortie, la Mulan, ça tombe bien, on vient de lancer Disney+, on va le mettre dessus. Ça a moyen fonctionné, c'est-à-dire que ça n'a pas remplacé l'économie du cinéma telle qu'elle existait jusque-là.
Ce qu'il faut signaler, c'est que Mulan était payant dans le cadre de cette opération qu'ils ont annoncée Warner Brothers. Ça sera simplement diffusé sur HBO Max, mais pas avec des frais supplémentaires, contrairement à Mulan. Et je réponds à une question de la chatroom, et j'en profite pour remercier le raid de Corben. Merci à vous tous et bonjour à tous. Ça concerne tous les films de Warner Brothers de 2021. Tous leurs films seront dispo en même temps aux États-Unis, bien sûr, en même temps au ciné et sur HBO Max.
Oui, mais attention, avec une fenêtre limitée. Ils ne seront pas disponibles in aeternam sur HBO Max. C'est-à-dire qu'ils vont être...
C'est un mois.
Hein. Ce qui est intéressant, parce que tout à coup, tu ménages quand même les fenêtres d'après, c'est-à-dire le Blu-ray, la diffusion en streaming sur d'autres services, etc. etc.
Et puis tu crées la demande peut-être pour t'abonner à HBO Max sur cette période-là. Donc,
par exemple, évidemment, c'est quand même extrêmement... C'est une vraie belle motivation. Mais quand on parle de la chronologie des médias chez nous, on dit souvent, oui, c'est pour protéger les salles de cinéma. Oui, mais en fait, oui et non, c'est surtout pour protéger une économie du cinéma qui s'appuie sur ces fenêtres de diffusion successives, c'est-à-dire le cinéma, le Blu-ray, la télé payante, la télé gratuite, le streaming, etc. Ce qui permet, toi, en tant que producteur et en tant que major, de dire, tiens, ben voilà, je vends en gros le même contenu, mais à des moments différents, à des prix différents, à des gens différents. Parce qu'évidemment, le problème, c'est que si tu mets tout sur Netflix au premier jour, bon, ben, ton économie, elle est différente. Il faut que ce soit Netflix qui te paye le film.
Après, la question que je me pose, c'est ce que ça va changer dans l'expérience du cinéma, parce qu'on a quand même aller au cinéma, c'est une expérience, hein, un truc de sociabilité, un truc de divertissement, etc. L'avenir dira si, parce que moi, je peux concevoir en tant que consommatrice de regarder des films en streaming et par ailleurs de continuer à aller au cinéma, ce que je fais déjà. Mais voilà, est-ce qu'on va réserver le cinéma à uniquement les films qu'on va absolument voir? Est-ce que les cinémas vont développer une offre un peu différente? Enfin, par exemple, j'ai vécu un petit peu aux États-Unis. Aux États-Unis, le cinéma, c'est un peu différent. Enfin, c'est les salles sont vachement confortables. Il y a souvent des offres de dining, plein de choses comme ça. Donc, est-ce qu'en France, on pourrait imaginer une expérience
du cinéma? Transformer l'expérience du cinéma, oui.
Après, moi personnellement, quand je vais au cinéma, j'essaye de privilégier les petites salles indépendantes qui ont plus besoin de notre soutien généralement que les grosses chaînes. Mais j'imagine que si l'expérience devait être améliorée entre guillemets, ça serait plutôt les grosses chaînes qui le feraient, quoi. Donc c'est un sujet complexe, je trouve, même en tant que consommateur et en termes d'éthique de consommation, on va dire.
Ouais. Je précise qu'il y a quand même des gros films qui seront concernés par cette décision. Il y a des choses comme Godzilla vs Kong, désolé, c'est quand même un film à grand spectacle, Mortal Kombat, Suicide Squad, la suite, mais bon, tout ça, ça vous parle peut-être pas, mais il y a aussi Dune, Matrix 4 et des choses de ce genre-là. Donc, il y a quand même des choses qui vont compter. Ouais, il faut aussi noter qu'en France, et encore une fois, on risque de ne pas être concerné par cette décision en France, mais le cinéma est quand même très, très populaire, hein, la plupart des gens. Et même en France, je crois que la moyenne des visites de salles de ciné pour la population, c'est à peu près 1 à 2 films par an pour la population. Dans les autres pays, c'est beaucoup, beaucoup plus faible. C'est marrant parce que quand on est à Paris, on a des dizaines et des dizaines de salles de ciné. Dans les autres capitales, c'est rare qu'on en ait autant. Mais je crois que l'expérience ciné est évidemment importante, à tel point que je pense qu'une certaine catégorie de spectateurs va continuer à aller au ciné, peut-être pour voir les films qui seront disponibles à la maison. Maintenant, il y a aucun doute que ça affecterait la chose. Ce que vous dites tous les deux, j'ai l'impression, c'est que peut-être qu'on peut réorganiser l'économie du cinéma en tant qu'industrie pour que ça reste rentable, et peut-être aussi que ça peut pousser les salles de cinéma à améliorer l'expérience ou à proposer des choses différentes pour continuer à attirer les gens. Il est certain que sur certains films grands spectacles, c'est peut-être pas exactement cohérent avec ce que tu dis, Lucie, sur le fait de soutenir les petits exploitants, mais certains films grands spectacles, il est peut-être plus intéressant d'aller les voir au ciné. Mais est-ce que ça suffit pour faire tenir les salles? Est-ce que ça réduirait le nombre de salles? Enfin bon, ça pose beaucoup de questions. La question, je crois, la plus intéressante, c'est: est-ce que c'est pas un truc qui risque d'arriver de toute façon? Est-ce que c'est pas par là, vers là qu'on se dirige, quoi qu'il arrive? Est-ce que les cinés ont vocation à continuer à exister jusqu'à la fin des temps?
Ça paraît difficile. En tout cas, peut-être pas à l'échelle où ils existent aujourd'hui chez nous, parce qu'on oublie de le dire. Par exemple, quand on est parisien, on est servi comme quasiment personne au monde en salle de cinéma et théâtre, ouais, d'ailleurs. Donc, est-ce que cette économie-là va continuer à cette échelle-là? Moi, j'y crois pas un instant. D'autant que de l'autre côté, ce que tu peux faire chez toi a quand même, là aussi, fait un bond qualitatif absolument dément avec l'arrivée de la 4K. Aujourd'hui, tu trouves, tu vois, des projecteurs courte portée qui te font une image de 3 mètres de diagonale d'une qualité super à moins de 1 500 €. C'est-à-dire des trucs absolument inenvisageables il y a encore 5 ans. Idem sur le son. Donc, tout à coup, tu recrées quand même des expériences communes, au moins familiales, qui sont pas dégueulasses, et où en plus, même en termes d'économie, tu quand tu mets les choses côte à côte, tu dis bon, alors je veux au cinéma, on est 5, ça coûte tant, ouais, le parking, le machin, les pop-corns. Finalement, tu vois, comme dirait l'autre, la question elle est vite répondue, c'est-à-dire que tout à coup, ton projecteur, c'est peut-être juste ton budget annuel de cinéma jusque-là, quoi.
Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, on continuera à suivre ça. Moi, je serais curieux de voir si, effectivement, il y a quelqu'un qui envisage de sortir un film en streaming un jour et le lendemain dire, si vous les voulez au ciné, vous pouvez. Et
il faudra se renseigner sur la faisabilité, parce que légal, je suis pas sûr que les distributeurs... c'est ça. D'abord, est-ce qu'il y a un truc dans la loi qui t'empêche de le faire? Je pense pas, parce que c'est juste que personne l'a envisagé.
Oui, on s'était jamais posé cette question-là, oui.
C'est ça, on ne s'est jamais posé dans ce sens-là.
Après, les distributeurs, tu as raison, mais c'est toute la question. Le rapport de force entre les deux, je pense qu'on ne s'était jamais posé la question parce que le rapport de force faisait qu'on ne pouvait pas se passer des distributeurs et de l'écosystème de distribution des cinémas, des films en cinéma. Aujourd'hui, avec la pandémie et tout le reste, le rapport de force change. Et du coup, cette question, on peut se la poser. Est-ce qu'il est préférable d'avoir, de s'emmerder à sortir son film au ciné avec peut-être pour des mois encore à venir, très peu de rentrées, et puis ensuite être décalé pour des services de streaming qui sont le cœur d'activité, dans le futur du cœur d'activité de ces producteurs de cinéma avec Disney+, HBO, on a HBO Go ici dans le Nord, mais il y en a d'autres comme OCS qui reprennent le relais de HBO aux États-Unis pour la France. Être obligé d'attendre, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans pour le cas des abonnements, des services d'abonnement à la VOD, c'est peut-être pas intéressant pour eux. Donc la question risque de se poser, quoi. Bon. Bah écoutez, on va avancer avec un autre sujet extrêmement intéressant qui est le scandale du renvoi, par renvoi de Timnit Gebru, qui est une chercheuse en intelligence artificielle chez Google, ou plutôt qu'il était, qui étudiait les biais de l'intelligence artificielle sur les questions des minorités. Et elle était chez Google spécifiquement dans ce but. Et on a déjà parlé, bien sûr, dans cette émission à de nombreuses reprises des problèmes de biais de reconnaissance faciale, notamment donc, des algorithmes d'intelligence artificielle par rapport aux minorités. On parlait notamment du fait que la plupart de ces algorithmes sont entraînés sur des sets d'images de blancs et souvent d'hommes blancs, et que du coup, ils ont des taux de reconnaissance, des certitudes dans leur taux de reconnaissance chez les personnes de couleur et chez les femmes qui sont moins importants. Donc, quand ils reconnaissent une personne, si c'est un homme blanc, ils vont avoir un taux de certitude de, je ne sais pas, je lance un chiffre comme ça, mais 95%. Quand c'est dans une autre démographie ou une autre ethnie, on a des taux de certitude qui tombent là encore, je lance un chiffre, mais c'est cet ordre d'idée, disons 80%. Donc, c'est un vrai problème et ça s'applique à de nombreux outils d'intelligence artificielle et de deep learning. Et le problème, c'est que pour savoir, pour découvrir ces biais, eh ben, il faut des gens qui fassent ces recherches spécifiquement. Timnit Gebru faisait partie d'une équipe chez Google qui faisait ce type de recherche et qui était dédiée à ce type de recherche. Il y a quelques jours de ça, l'affaire a commencé il y a quelques semaines, elle a voulu publier un papier qui était critique de ces algorithmes, toujours dans ces mêmes contextes, et Google lui a demandé de faire des modifications sur ce papier. Et elle a répondu, écoutez, je pars en vacances là, j'avais des vacances qui étaient posées, moi, pour accepter les choses, pour que il disait chez Google, écoutez, c'est pas possible, vous pouvez pas publier ça, ça nous pose un gros problème. Elle a dit, alors voilà mes conditions pour qu'on le publie ou comment on le publie, sinon je me barre, sinon je démissionne. Et pendant qu'elle était, sans qu'elle soit au courant, Google a estimé qu'il ne pouvait pas accepter ces conditions. Et ils ont donc dit, bon, bah, du coup, on a accepté sa démission. Elle revient, elle dit, mais comment ça a accepté ma démission? J'ai pas démissionné. J'ai dit, vous acceptez telle condition, sinon je poserai ma démission. Mais je l'ai pas fait. Gros scandale, effet stressant, bien sûr. Tout le monde a commencé à en parler. Et bien sûr, je vous invite tous les deux à ajouter des éléments parce que je résume beaucoup et il y a beaucoup de supputations dans ce scandale. Mais
il y a beaucoup de he said, she said quand même. Hein.
Tout à fait.
Alors même si.
Alors, Lucie. Que. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette affaire, il y a deux choses qui visiblement est mal passée dans la relation entre Google et Timnit Gebru. Donc la première, c'est effectivement cette étude. Alors il faut préciser que l'étude, elle l'a pas écrite toute seule. Ils étaient 6, donc 4 chercheurs et chercheuses qui bossent chez Google. Et a priori, pour l'instant, le problème se concentre autour de Timnit Gebru. Et donc en fait, l'étude la semaine dernière, on savait pas trop de quoi il s'agissait. Enfin, elle a pas encore été publiée en fait. Donc une étude incomplète généralement n'est pas publiée. Plusieurs médias ont mis la main dessus et a priori, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les travaux, cette étude, portait en fait sur les risques des méthodes actuellement employées pour améliorer les IA chargées de comprendre et d'imiter notre langage. On appelle ça le traitement automatique du langage naturel. Natural Language Processing, c'est en fait tous ces outils qu'on va utiliser pour faire de la correction orthographique, faire de la traduction automatique. Tout ça pour dire un secteur d'activité très très important pour Google. C'est-à-dire Google, c'est Google Translate, c'est toute la mécanique au cours de Google Drive, etc. Et donc, toute cette étude, en fait, pointe différents risques à l'entraînement intensif de ces algos avec un grand nombre de textes. Et ça, c'est super intéressant parce que Patrick, tu as raison de dire que les algorithmes donc, ont des biais, et ça, c'est un sujet qui est bien connu maintenant et dont on parle facilement et dont les grandes entreprises parlent également.
Notamment, mais généralement, je t'arrête juste une seconde pour préciser que l'une des raisons pour lesquelles on connaît les problèmes de ce type, c'est notamment les travaux de Timnit Gebru, ou Gebru, je ne sais pas comment on prononce en français.
Tout à fait, oui.
Et elle était, donc c'est une figure qui n'était pas autant sur le devant de la scène qu'aujourd'hui avec cette histoire, mais elle fait partie, et c'est important dans les discussions qui vont venir, elle fait partie des gens qui ont amené, qui ont donné une certaine visibilité à ces problèmes très importants. Donc elle est au centre de ça.
Oui, c'est l'une des stars de l'éthique dans l'IA. Hein, je veux dire, très clairement, elle a fondé l'organisation Black in AI, parce que Timnit Gebru est une femme noire, il faut le préciser, je pense que c'est aussi important dans
oui, bien sûr, bien sûr, après. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment.
Non, il n'y a pas de... Et donc, du coup, cette étude, en fait, parle de ces différents risques, et en fait, ces risques sont plus ou moins connus, hein, c'est le coût écologique, le fait que, en fait, entraîner des algorithmes sur une très grande quantité de textes, ça veut dire que ces textes ne sont pas contrôlés, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart de ces algos sont entraînés sur des textes trouvés en ligne, du type Wikipédia, etc., dont Google ne contrôle pas la qualité. Ce qui veut dire qu'en fait, plutôt que de corriger ces biais, en fait, le fait de les entraîner sur un grand nombre de textes peut en fait les perpétuer. Et ça, c'est super intéressant parce que généralement, ces grandes entreprises, quand on leur pointe du doigt les problèmes de biais de ces algos, elles disent « oui, on sait, c'est un vrai problème, mais vous inquiétez pas, plus on va entraîner ces algos, meilleurs ils seront ». Si tu veux. Or, cette étude remet un peu en cause cette stratégie en disant, en fait, c'est pas si facile que ça, il faut pas les entraîner, il faut un vrai travail de contrôle. Et en fait, la conclusion de l'étude, c'est de dire, peut-être qu'en fait, on ferait mieux d'entraîner ces algos sur un nombre de données plus restreint, mais mieux contrôlé, de meilleure qualité.
Plutôt et ça arrange pas. Balancer autant de textes que possible, oui.
Voilà, alors moi j'ai pas lu l'étude, hein, j'ai vraiment lu les résumés comme tout le monde. Et ça, concrètement, ça arrange pas vraiment les affaires de Google, parce que ça va un peu à l'encontre de son modèle éco. Google, il a construit plusieurs modèles d'entraînement d'algo du langage qui fonctionnent sur ce principe d'entraînement en ligne. Je veux dire, on sait tous qu'on entraîne, nous, internautes, les algos de Google en faisant plein de choses en ligne, hein, je veux dire. Et donc voilà, donc il y a cette étude, et ensuite il y a le fait que Timnit Gebru, voyant que cette étude ne passait pas auprès de Google, sent des plaintes dans un email qui a été envoyé dans une chaîne de mails dédiée en gros aux Googlers qui soutenaient ça s'appelait Google Brain Women and Allies. Donc en gros, c'est un peu la chaîne de mails féministe des gens qui travaillent chez Google Brain, qui est la division de Google dédiée à l'IA. Et dans ce mail, elle s'est plainte en disant, moi je suis une femme noire chez Google, j'ai l'impression de rien pouvoir faire, j'ai l'impression que chacune de mes idées est remise en cause. Cette étude, j'en parle depuis 3 mois avec Google, jusqu'ici tout allait bien, et d'un coup, ils me disent que ça va pas, ils veulent le rétracter. Et elle finit par une phrase que moi je trouve très forte qui dit, en fait, je vous conseille, vous mes collègues, d'arrêter de travailler, d'arrêter de faire des études, parce qu'en fait ça ne change rien. Google, on n'a rien à faire des études de diversité. Elle le dit pas dans ces termes, mais en gros c'est de la com, quoi.
Bah, c'est ça qui est, à vrai dire, même au-delà des problèmes de biais dans l'IA qui sont évidemment essentiels, c'est ça qui est encore plus au cœur des discussions, parce que si Google, alors on se doute depuis des années que quand les sociétés font ce type de travaux, elles les font, ok, mais c'est-à-dire des travaux qui sont là pour étudier les problématiques éthiques que peuvent causer leur activité principale ou leur activité tout court. Eh ben, on imagine bien qu'ils essayent d'orienter un petit peu ça pour que ça les arrange quand même. Ils se soucient pas forcément énormément des résultats. En gros, on peut imaginer que ça soit beaucoup de PR, beaucoup de lustre sur ce qu'ils font et pas énormément d'effets réels. Et là, alors je ne me prononcerai pas sur ce qui s'est passé avant, Mais là, c'est quand même un argument énorme dans l'arsenal des critiques de Google qui disent oui, c'est des paroles et ça n'a rien de concret, parce que ce qui semble s'être passé, on va prendre quelques pincettes quand même si on commence à y voir un petit peu plus clair. Peut-être qu'ils ont de très bonnes raisons d'avoir voulu empêcher la publication de cette étude. Peut-être qu'il y avait une justification logique et compréhensible, mais jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vraiment vu. Les excuses de Google ne semblent pas vraiment tenir. Mais l'effet que ça donne, c'est, quand c'est un truc qui ne les arrange pas, ils essayent de l'étouffer ou ils renvoient les personnes qui sont là pour justement pointer du doigt les problèmes. Enfin, c'est un souci dépasse les problèmes d'IA et de biais et le cas de dont on parle spécifiquement maintenant.
Ouais, je pense que le problème principal de cette affaire, c'est un problème très américain, mais qui arrive aussi en France, c'est la privatisation de la recherche. Je veux dire, aux États-Unis, le monde de la recherche est intimement lié à celui des entreprises. Je veux dire, Google n'est pas le seul. Toutes les entreprises du numérique, et par ailleurs pas que du numérique, financent des recherches dans leur domaine. Et ce qui est intéressant, c'est que je disais tout à l'heure que le papier a été coécrit donc par 6 personnes, dont 4 chez Google. Et pour l'instant, la seule personne qui s'est exprimée cette affaire, à part Tim Gebru, évidemment, qui se défend, c'est une chercheuse qui ne dépend pas de Google, qui est une chercheuse en université, j'ai oublié le nom. Et donc ça, quel que soit le fond de l'affaire de Tim Gebru, c'est quand même super symbolique du fait que un chercheur qui bosse pour une entreprise privée, au final, son employeur, c'est une entreprise privée. Et donc, sans savoir si leur recherche gêne ou pas Google, ça veut quand même dire quelque chose sur la liberté qu'ils ont dans leur travail, en tout cas dans l'expression de leur travail, quoi.
C'est incroyable. Je trouve que c'est incroyablement mal géré de la part de Google. Si on prend les manières de choses.
Symboliquement, c'est terrible.
Ouais. Même de manière très froide, ils se torpillent leur crédibilité et c'est politiquement, j'ai envie de dire, mais au niveau de la politique d'entreprise et de la communication, c'est quelque chose, c'est une erreur lamentable, quoi, qu'ils auraient évidemment dû voir venir. Mais Cédric, pardon, vas-y Lucie.
Je sais pas, moi quand c'est sorti, je suis allé voir, parce qu'en fait il y a le fameux mail de Tim Gebru qu'elle a publié, comme disait Lucie, dans cette liste de mails des, on va dire, féministes. Et puis après son départ, il y a eu une réponse du patron de l'IA qui lui reste. C'est intéressant, hein, en rhétorique, on dit quand on t'oppose de l'émotion, répond par des faits, et c'est exactement ce qu'il fait. Ou en gros, il dit attendez, Timit, elle nous a envoyé son mémoire de recherche à valider sous 24 heures pour publication. Alors c'est pas comme ça qu'on fait. Après, quand on est revenu en lui disant bah oui, mais tu vois, tu fais l'impasse sur des recherches qui ont déjà été faites et qui nous ont prouvé qu'il y a des trucs là. Enfin, il y a des trucs sur lesquels ils avaient des désaccords de fond. Et en gros, de fait, elle est partie en disant écoutez, si c'est pas résolu quand je reviens, je me casse. Donc, moi j'ai
l'impression que c'est quand même.
Après, ce qu'on dit.
Parce que ce qu'il faut pas oublier, ce qu'on oublie de dire depuis le début, c'est que c'est pour faire ce genre de choses qu'ils l'ont embauché. Moi, j'ai pas idée de son salaire, mais on va se le dire, c'est en millions de dollars.
Oui, mais quel rapport? Au contraire, c'est une incentive pour rester, pas une incentive pour se barrer.
Et par ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs de Google qui sont encore chez Google, mais qui sont pas du coup chez Google Brain, mais qui sont genre chez Google Montréal, machin, qui sont intervenus en disant que l'argument en tout cas de Dean, qui était effectivement de dire elle nous l'a donné trop tard et on n'a pas eu le temps de le regarder. Visiblement, il y en a qui ont dit que c'était comme ça, que ça se faisait souvent en fait, et que c'était pas la première fois qu'une chercheuse rendait son papier à la bourre, que non, la fameuse règle des 2 semaines, et donc du coup que c'était aussi, enfin, visiblement c'est pas un cas particulier de, enfin, Tim Gebru n'a pas décidé de casser les règles d'un coup juste pour faire chier son monde, enfin, pour le dire un peu rapidement.
Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des histoires où tu n'as que le contexte qu'on te donne, en gros, tu vois ce que je veux dire.
Oui, bien sûr. Mais
donc, je suis un petit peu gêné d'avoir un jugement définitif sur un truc qui est, parce que elle a été embauchée pour faire ce boulot-là, donc c'est pas de l'affichage, tu vois. Ils sont pas décidés de lui lâcher quelques millions par an.
Mais reste la question plaisir. Cette étude leur pose visiblement problème. Surtout que ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes le contenu de l'étude. c'est pas révolutionnaire dans le sens où les limites de l'entraînement des IA et les biais qu'ils peuvent reproduire, ça, enfin, on a déjà lu des études là-dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé?
Et ça, que c'est, moi, c'est d'ailleurs ce sur quoi elle est venue travailler quand même dans l'ensemble, parce que c'est ça l'histoire de l'IA éthique. C'est de dire on fait des moteurs logiciels dont on va essayer de faire en sorte qu'ils évitent de reproduire les biais du passé. C'est le fameux exemple, moi, que j'aime beaucoup, c'est celui de dire tiens, on a un super moteur d'IA pour filtrer par exemple les CV entrants dans une grosse boîte. Mais alors on va les filtrer sur quels critères? Ah, c'est vrai, c'est compliqué. Bah alors c'est très simple, regarde ce qu'on va faire. On va prendre tous les gens qu'on a déjà embauchés et qu'on vraiment bien réussi, par exemple, qui ont été, il y avait un exemple qui était très bon, qui ont été promus 2 fois en 5 ans. Et puis on va prendre leur CV et ça va devenir la base documentaire à partir desquelles on va dire trouve-nous des CV similaires. Or évidemment, c'est le meilleur moyen pour reproduire les biais humains du recrutement jusque-là.
Bien sûr.
Donc, si tu veux, tu reviens 5 ans après, tu dis, je comprends pas, ce ne sont toujours que des hommes blancs. Bah oui, évidemment. Donc, je pense que, c'était évidemment sur ces sujets-là qu'elle venait travailler. Donc, je suis embêté quand on dit oui, mais finalement, tout ça, c'est que de la com, etc. Parce que, et alors, il y a une autre chose qu'il ne faut pas ignorer, mais ça que tu vois ces grosses boîtes, c'est-à-dire qui ont les moyens de financer ces recherches, c'est qu'il y a quand même un terrain immense entre la recherche et le produit. Il y a des monceaux de recherche que tu vois chez Microsoft, par exemple, qui n'aboutissent jamais à un produit, parce que d'ailleurs, elles ne sont même pas là pour ça. T'es à la limite de la recherche fondamentale. Donc, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas en train de discuter sur est-ce que Google allait adopter une feature ou pas, etc. Voilà, moi j'ai du mal à avoir un avis définitif parce que de toute façon t'es dans des questions à la fois de personnes, de tout ça, etc. Et moi c'est toujours assez frappant de voir des trucs comme ça qui se... Ouais. Parce que juste un truc, hein, son email, si t'es son patron, je sais pas comment tu continues à l'employer. Tu vois ce que je veux dire? Son email est déjà une lettre de démission.
Ouais.
Quand elle dit qu'elle est patronne du labo de DIA éthique et elle dit aux gens arrêtez de travailler sur ce sujet. Bon, bah écoute, je pense que voilà.
Ouais, mais c'est difficile d'être.
C'est notre relation.
Je sais pas dire qu'elle est dans le registre de l'émotion. Enfin, c'est vrai que vu le contexte, et puis encore une fois, dans son mail, elle ne parle pas que de l'étude, elle parle apparemment de mois qui ont été difficiles pour elle, du fait qu'il y a quelques semaines, il y a eu visiblement une réunion dont on n'était pas au courant, on étant le grand public, d'employés noirs de Google qui disaient qu'ils en avaient marre, etc. Enfin, il faut aussi remettre ça dans un contexte global dans lequel Google, et pas que Google d'ailleurs, les géants du numérique en général font face à une fronte croissante, je pense, d'une partie de leurs employés sur ces questions-là, sûr, oui. Sur les questions de diversité, sur les questions Il y a aussi une grosse pression, je veux dire, ils sortent des années Trump, tout le monde déteste les GAFA alors qu'il y a 5 ans, tout le monde les adorait. Enfin, je le dis vite fait, mais c'est plus ou moins le
non, bien sûr, ça fait partie du contexte.
Ouais. Non, mais évidemment.
Voilà, et du coup, il y a un contexte de ces géants qui jusqu'ici étaient considérés comme des employeurs vraiment cool avec des incentives de malade. C'est le cliché de la cantine gratuite, les potes de sieste, etc. Et des employés qui ça leur suffit plus, en fait. Ils veulent les entreprises qui correspondent à leurs valeurs, etc. Et que ces entreprises sont des entreprises, elles ne sont pas forcément capables de leur apporter ce qu'ils attendent. Et la réaction de ces boîtes, enfin, je veux dire, Google, là, la semaine dernière, a été accusé par une agence fédérale américaine. Je crois qu'il me semble que c'est en Californie, il faudrait vérifier, d'avoir licencié injustement 2 de leurs employés, justement qui avaient organisé des walkouts, parce que Google a eu plusieurs manifestations en interne, voilà.
Ces événements-là, ouais.
Et voilà, et donc tout ça pour dire que il y a Timnit Gebru, il y a ce cas-là, et puis il y a plus généralement le fait que visiblement il y a une vraie fronde au sein de Google, et Google c'est pas le gérer et a visiblement recours à parfois des process RH qui sont pas normaux, en fait.
C'est un truc que j'entends, et puis on va conclure parce qu'on n'aura pas le fin mot de l'histoire dans cette affaire, et je crois qu'on a bien compris la prudence sur le jugement final de Cédric et le contexte nécessaire pour comprendre l'affaire de Lucie, mais ce qui est certain, c'est que j'entends de plus en plus, moi, dans les milieux anglophones et américains, des choses que j'entendais pas il y a 4 ou 5 ans, qui sont des questions de droit du travail, des questions de minorité sécurité dans ces entreprises, au-delà même de la recherche et de l'IA, et au-delà même juste de la représentativité, et dans le contexte de des conflits autour du droit du travail, ça commence à devenir de plus en plus, à faire de plus en plus de bruit, là où c'était le calme plat il y a encore, 3 ou 4 ans. Donc ça a des causes et des effets, c'est certain. Bon, bah écoutez, on va continuer avec des sujets peut-être un petit peu plus légers, mais avant ça, j'aimerais vous lire une critique, ou plutôt un commentaire qui a été laissé sur iTunes par Le PayPay, qui était en France. Il nous dit « Pour tout savoir, tout comprendre, se tenir informé, et même pour avoir les réponses aux questions que l'on ne se pose pas, un incontournable des... » J'allais dire un interminable. Il y a peut-être un peu des deux. un incontournable des podcasts tech avec animateur, présentateur, réalisateur, juste parfait dans son rôle. Et en prime, on a même droit à la météo finlandaise à écouter et à suivre en urgence. Merci Patrick, merci à toi. Si comme lui vous appréciez l'émission, vous pouvez aller sur votre app de podcast préféré et laisser un petit commentaire ou quelques étoiles. Et vous pouvez, si vous l'appréciez particulièrement l'émission, bien sûr la soutenir sur patreon.com/rdvtech. Et n'oubliez pas que si vous la soutenez, vous n'êtes plus, vous ne vous sentez plus un petit peu coupable quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol et que ça fait cling et vous vous dites « Ah, faut que je pense à Patrick !» Si vous êtes patriote, ça fait cling et vous dites « Ah, je pense à Patrick et ça me fait tellement plaisir parce que je le soutiens et je soutiens un travail que j'apprécie. » Donc, merci à tous ceux qui le font déjà. Et quand vous rentrez chez vous, ou même maintenant, tout de suite, vous pouvez aller sur votre téléphone mobile et aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Et pour info, là, il y a encore du soleil en Finlande un petit peu, mais le soleil se couche à 3h30, donc dans 2h. Donc, voilà, je suis là avec
c'est
vous.
Ce que j'allais te demander, ouais, le temps.
Ouais, écoutez, je suis là avec vous maintenant et je sacrifie le peu de temps de soleil que j'ai en Finlande pour être avec vous. Donc, j'espère que vous appréciez l'effort que je fais.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Donc voilà pour... cette petite pause et on va continuer avec des sujets. Vous savez quoi ? J'ai une question à vous poser avant de parler de Samsung. Cette histoire de d'empêcher le lancement automatique, la lecture automatique des vidéos sur les pages web est revenue sur le tapis. C'était lors de discussions avec des sénateurs. Cédric O a dit qu'il n'était pas opposé à l'idée d'en rediscuter parce que pour des questions écologiques, si on interdit le lancement automatique des vidéos sur les pages web, ça pourrait faire moins travailler les serveurs et donc peut-être faire des économies d'énergie, tout simplement. Mon instinct, c'est de me dire il y a quand même d'autres problèmes qui ont un petit peu plus d'impact, j'imagine, mais en même temps, par honnêteté intellectuelle, je dois avouer que j'ai jamais vu d'études qui essaieraient d'estimer la consommation énergétique de ces lancements automatiques. Ça me paraît être, négligeable ou minime ou anecdotique, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faudrait vraiment s'intéresser à ce problème-là spécifiquement ?
Comment dire ? je vais te raconter une histoire. Ça se passe il y a assez longtemps, dans une maison qui m'employait. On m'a demandé de faire des démos, parce qu'évidemment, j'étais, tu vois, le geek de la maison, quoi. Mm-hmm. En disant, il y a des sénateurs qui viennent, ils voudraient comprendre des trucs. C'est longtemps, hein.
D'accord.
Et parmi les choses qu'ils voulaient comprendre, il y avait la téléphonie sur Internet. Ils ne comprenaient pas, il n'y avait plus de téléphone, c'est-à-dire que tu passais par ordinateur. En gros, tu as Skype. Et okay. Donc, j'ai fait une démo de Skype. Et à l'époque, avec Skype, tu pouvais même appeler des numéros de téléphone pour que les gens décrochent sur leur téléphone. Bref. Et donc, j'ai montré, c'était voilà, fou, par exemple, j'ai 3 contacts dans mon Skype, je peux les appeler sur Super. Et je fais une démo pendant une demi-heure. Et à la fin, un sénateur qui lève la main et qui dit mais si j'ai plus de 3 contacts, c'est plus cher. Voilà. Le problème, c'est que dans l'ensemble, le politique a longtemps été le degré zéro de la technologie. Alors, ça évolue, mais ça évolue pas pour des questions de culture, ça évolue pour des questions générationnelles. Donc, c'est super qu'on ait eu des gens comme Mounir Majoubi, comme Cédric O, c'est-à-dire des gens qui sont déjà acculturés de manière naturelle à ces choses-là. Disons qu'au Sénat, les choses sont un peu plus compliquées. et que, bon, j'ai pas vu le débat entre Cédric O et les sénateurs. Peut-être que, voilà, quand on dit Cédric O, c'est montré sensible à cette réflexion. Peut-être qu'il a dit oui, je pense.
C'est peut-être qu'il a été poli, quoi, tu veux dire.
Voilà, je pense que, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas, mais je pense, c'était pas son idée, en tout cas, clairement. Je pense que quand il arrive dans cette discussion, parce qu'on va se dire les choses clairement, c'est très simple. Hein. D'abord, l'empreinte de en termes d'énergie, de l'autoplay des vidéos. C'est comme les gens qui disent « Non, mais il faut regarder des vidéos en basse def. » Non, mais je veux dire, là, une vidéo entre une vidéo normale et une vidéo non, en 4K, la conso énergétique va peut-être varier d'un pour cent sur toute la chaîne de machin.
Mais oui, mais 1% plus 1% plus 1%, tu vois, si on s'attaque à plusieurs trucs comme ça, je me fais un peu l'avocat du diable et faire la musique, l'avocat du diable.
En fait, le problème, c'est que la consommation énergétique du truc, elle est déjà à peu près constante, en fait. Et après, c'est ce que tu mets dedans et l'efficacité énergétique des machines que tu mets dedans. Ouais. Si tu veux avoir un véritable impact, eh bien voilà, dis-toi par exemple, non, je ne vais pas changer d'iPhone cette année, je changerai l'année prochaine. Et là, tout à coup, tu vas avoir un impact massif. Je ne parle pas de la consommation du téléphone, parce que tu sais que la consommation totale de ton iPhone sur un an, c'est la cuisson d'un poulet au four, hein, c'est rien. Je te le dis.
C'est pour ça qu'on parle de serveur. On va pas passer trop longtemps sur le sujet.
Donc c'est pas... Voilà, donc c'est... C'est bien, mais il y a des
c'est
vrais
pas
problèmes
la priorité,
à régler.
T'es d'accord avec moi.
Celui-là n'est pas dans la liste, à mon avis, des premiers problèmes à régler.
Lucie, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on parle de Samsung?
C'est l'éternel problème de les efforts individuels dans l'écologie et pas que dans le numérique d'ailleurs face à la responsabilité collective. Je peux ne pas lancer automatiquement ma vidéo sur YouTube en attendant on fait voler des avions vides et Lafarge verse du béton dans la Seine quoi. Donc
bon, je crois qu'on est d'accord, c'est pas forcément la chose à laquelle il faut s'attaquer le plus urgemment pour le moins. Justement, en parlant de ne pas acheter de nouveaux téléphones cette année, il semblerait que Samsung ne sorte pas de Galaxy Note cette année. Vous savez qu'ils sortent généralement leur Galaxy S 10, 20, peut-être 30 en début d'année, en 2021. Et à l'été, ils ont une version entre guillemets plus haut de gamme, qui est le Galaxy Note, qui met beaucoup plus l'accent sur le stylet. Pour un certain nombre de raisons, notamment dû à la pandémie, il est possible qu'ils ne sortent pas leur Galaxy Note en 2021 et qu'ils se concentrent plus sur les téléphones existants, la série S et la série pliable. Donc, ils réorienteraient leurs chercheurs et leurs ingénieurs sur l'amélioration des téléphones pliables. Je ne sais pas si aujourd'hui, avec l'évolution des S, justement, qui sont de plus en plus haut de gamme, c'était toujours cohérent d'avoir une gamme Note. Je suis sûr que Cédric a un avis là-dessus, mais...
La grosse différence, c'était la taille de l'écran et le stylet. Donc, c'est des choses qui ont tendance à... Le fossé qu'il y a entre les deux... Bon, c'est intéressant parce qu'en termes de calendrier, ça avait un côté ping-pong, tu vois. Tu avais le S au printemps et puis le Note à l'automne. Je pense que de fait, le truc, c'est que maintenant qu'ils ont fait les pliables, etc., ça s'insère dedans. Je pense que ça leur pose aussi des problèmes de calendrier. Je pense que les pliables, en fait, sont en train de remplacer le Note, quoi.
Ouais, ça a l'air d'être un petit peu ça, effectivement.
En termes de gamme, de prix, d'effort marketing, de tout.
Ouais. Est-ce que, du coup, je sais pas si tu as suivi cette histoire, toi, Lucie, mais je suis sûr que Cédric, lui, est absolument passionné par tout ce que fait Elon Musk, et il semblerait qu'ils aient prévu un vol vers Mars, un vol inhabité, dès 2022, ce qui est quand même dans pas si longtemps que ça. C'est un vol qui ne va pas se poser, hein, donc c'est juste envoyer peut-être une sonde ou un truc comme ça vers Mars. Et il planifie, alors là, c'est les années de Elon Musk, hein, il a tendance à estimer que tout va aller beaucoup plus vite, que ça ne se produit réellement. Mais même si ça prend le double, c'est quand même impressionnant, peut-être une mission habitée en 2024 ou 2026.
Ça paraît dingue.
Ouais. Ça me paraît même tellement dingue que là...
Longtemps, on disait 2050, après on a dit 2040, mais là encore, peut-être que le Covid, ça y est, on est déjà en 2030, on ne sait juste pas. Et ce qui expliquerait que, voilà, tout à coup, les choses s'accélèrent ou que les choses se débloquent finalement. C'est sympa qu'il fasse quand même d'abord un vol inhabité. Moi, je dis ça, je dis rien. Parce qu'il le reconnaît de manière très claire. Il dit, oui, ça, clairement, les premiers qui partiront, c'est pas du tout
c'est sûr, pas sûr qu'ils reviennent. Hein.
Bon, écoutez, joyeuse fête à vous, alors. Mais ouais, t'imagines 2024. Mais même si c'est 2025 ou 2028, déjà, c'est huge, quoi.
Ouais. Bon, c'était juste une petite news comme ça, sympathique.
Je prends pas mon ticket tout de suite. Non, j'ai pas cette fascination-là, non.
Je crois que moi non plus. Hein. C'est pas pour tout de suite, tout de suite. Tiens, un truc rigolo. Flickr, parce que c'est 2020, comme le dit très bien ce papier de, enfin cet article de Numérama, parce que c'est 2020, Flickr a lancé le concours de la photo la plus moche de l'année. Je trouvais ça quand même sympathique comme idée. Mais la grande question, c'est comment est-ce qu'on détermine quelle photo est la plus moche ? Parce que tu peux faire, je sais pas, une photo floue d'un truc qu'on voit pas et c'est moche. Mais il doit y avoir un véritable art à la détermination de la photo la plus moche. Laquelle est vraiment plus moche que l'autre ? Quand tu pars dans ces considérations, c'est compliqué de décider, je trouve.
Moi, je trouve ça rigolo parce qu'il y a un vrai retour de l'esthétique du moche, entre guillemets, sur le réseau en général. Enfin, je ne sais pas si vous traînez un peu sur Instagram et tout, mais même quand on regarde, il y a plusieurs influenceuses, entre guillemets, ou personnes sur Instagram qui se sont fait pour spécialité de se prendre en photo avec des yeux rouges un peu flous, avec un masque à la boue sur le visage. Donc, ma foi, bon, plus 2020 étant une année... globalement à mettre à la poubelle.
c'est dans le bon thème, ouais, c'est ça.
Je pense que la vraie question, enfin le vrai truc, la vraie question que pose ça, c'est ça existe encore Flickr?
Écoute, qui est-ce qui les a rachetés la dernière fois là? Ils étaient chez Yahoo un moment et puis ils sont revendus, je sais plus chez qui ils sont maintenant, mais clairement oui, ils existent encore. Alors, un truc, je ne sais pas très bien quoi en penser, c'est cette opération de Bouygues Télécom, dont tu ne pourras peut-être pas parler, Cédric, du coup, mais Bouygues Télécom, cette histoire de donner 1 giga pour aider les plus démunis. C'est une opération qui est faite avec des gens sérieux, hein, c'est fait avec la Croix-Rouge française. C'est que sur notre forfait internet, on peut donner 1 giga simplement en allant, je crois que c'est par le site de Bouygues ou l'application de Bouygues, on dit je veux participer, je donne 1 giga qui va être ensuite redistribué à des personnes qui sont plus nécessiteuses.
On va pas redistribuer des gigas. Alors c'est ça, à des gens qui n'ont pas d'argent.
Je laisse pas finir d'expliquer, mais vas-y. Sauf que
vas-y, je t'en prie, finis.
Bon, en fait, on va pas perdre le giga. C'est juste une action qui, symboliquement, vous dites « je veux participer ». Et donc, en fonction du nombre de personnes qui participent, Bouygues va donner des... Je crois que ça inclut les téléphones également. Et des forfaits à des personnes qui en ont besoin. Et Dieu sait que ce genre d'outil est important de nos jours parce que numériquement, si on n'existe pas, il est difficile d'exister administrativement et dans un tas d'autres catégorie aussi. Mais je me questionne en fait sur la manière dont c'est fait. En même temps, on en parle, donc peut-être que c'était le truc à faire. C'est assez bizarre. Oui. Mais bon,
je pense, parce que je suis pas dans le secret des dieux, que c'est une façon de donner à l'abonné une sorte de monnaie d'échange. Parce que des gigas, t'en as X dans ton forfait, et donc voilà, ça permet de mobiliser tout le monde, tu vas pas donner tous tes gigas. Enfin bref. Et puis, je pense que c'est aussi de la prise de conscience. C'est aussi une manière de communiquer auprès des abonnés de l'opérateur pour leur dire que ces problèmes sont importants. Et c'est vrai qu'ils le sont parce qu'on le voit. C'est-à-dire que là encore, depuis toute cette année, on a déplacé énormément de choses sur des marchands en ligne. Enfin, tout à coup, il est devenu quand même vachement plus compliqué de faire des choses dans le monde réel. Et on, nous, toi et moi, on se dit, et Lucie, on se dit, bah, c'est vachement, c'est chouette, c'est plus rapide, c'est facile. Oui, c'est facile parce que nous, on sait faire et on est équipé. C'est pas le cas de tout le monde. Et il y a une vraie, comme disait Jacques Chirac, il y a dans ce pays une fracture, mais elle est numérique. Et alors, elle ne concerne pas que l'équipement, que avoir un forfait mobile, de la 4G, etc., etc. Après, il faut aussi quand même se bah, arriver à utiliser les outils, arriver à faire des choses
utilisables oui, pour
tout le monde.
Ça, c'est
là aussi, il y a des assos, des gens, dont la Croix-Rouge, dont plein de gens qui travaillent là-dessus. Donc non, moi, c'est une chouette initiative. Ouais. Mais non, personne ne va redistribuer des gigas. Ah non, toi, tu n'en as que
mais
deux.
Ce qui me frustre un peu dans cette histoire, c'est que si on a un forfait avec trop peu de gigas, on ne peut pas participer. Ce qui est quand même un peu... bon, bref. Allez, des news un petit peu plus sérieuses. Salesforce a confirmé son rachat de Slack, comme on en parlait la semaine dernière. On voit aussi que Airbnb a confirmé son entrée en bourse et qu'il monte les prix. Et en plus de ça, puisqu'on parle de Slack et Airbnb, c'est un peu les licornes de ces dernières années, mais ils ont lancé Airbnb.org pour permettre aux gens de mettre leur logement à disposition de manière gratuite, voire potentiellement de manière à prix réduit, pour des personnes qui sont des réfugiés, des travailleurs pauvres, enfin ce genre de choses, et des personnes qui sont affectées par des désastres naturels, ce genre de choses. Et donc c'est une autre activité à côté de... Ils ont leur infrastructure en fait de Airbnb, pour cet usage qui est, bon, sans doute intéressant. Mais oui, donc le rachat de Slack, c'est sans doute la plus grosse news. J'entendais Lucie dire « Ah, tu as des choses à dire
oui,
là-dessus. »
Oui, parce que, en fait, Slack, à l'époque où, pour expliquer aux éditeurs, j'ai longtemps travaillé au Figaro et il m'avait été confié de suivre Slack. Donc, c'est une entreprise que j'ai pas mal suivie. Et je trouve ça assez, pas triste, mais assez symbolique que Slack se fasse racheter en 2020, qui aurait potentiellement dû être l'année où Slack allait tout péter, quoi. C'est l'année où on s'est tous retrouvés chez nous, confinés, etc. Et là où Zoom a émergé, Slack, en fait, n'a pas fait grand-chose, quoi.
Et en fait, du coup, c'est un échec, à ton avis, cette revente
Je pense pas que c'est un échec.
À 27 milliards de dollars, c'est un échec qu'on aimerait tous se permettre, quand même.
Voilà, c'est pas un échec, mais je trouve ça intéressant. Je trouve que ça dit beaucoup de choses sur le traitement médiatique qu'a pu avoir cette boîte qu'on a, et j'en suis sans doute aussi responsable, qu'on a un peu survendu. Mais eux aussi, ils disaient, on va remplacer le mail, etc. Ça a été présenté comme un truc vraiment exceptionnel. Alors qu'en fait, concrètement, pour ceux qui ont utilisé IRC, c'est-à-dire Slack, c'est le même principe qu'un IRC, quoi, hein, c'est pas très différent. Et donc Slack a été présenté comme une idée nouvelle et enthousiasmante, sauf qu'on peut pas rester nouveau toute notre vie, et que Slack est une entreprise qui a pris un peu de galon, et du coup c'est devenu en quelques années un truc assez classique de la communication d'entreprise. Donc c'est devenu un truc un peu boring, quoi. Qui mieux que Microsoft sait faire des trucs un peu boring mais efficaces en entreprise? Donc c'est un peu ça, c'est que je pense que Slack a...
La concurrence est arrivée vite, quoi.
La concurrence est arrivée vite. Par ailleurs, Microsoft a complètement pompé Slack. Malheureusement, c'est un grand classique de l'industrie du numérique. Et que voilà, maintenant, Slack rejoint Salesforce, qui est une autre entreprise qui sait faire des choses boring, mais très efficaces en entreprise. Ouais. Et voilà, quoi. Mais c'est une trajectoire, au final, assez classique. Mais bon.
Le truc, c'est ça. Je pense qu'il y avait un problème sur les pistes de la croissance future de Slack. C'est arriver à garder ce même rythme de croissance. Surtout à un moment, en fait, finalement, où la pandémie a accéléré la mise à niveau des autres. C'est-à-dire que, d'un coup, Teams a explosé chez Microsoft, etc. Et je suis d'accord avec Lucie, Microsoft fait des choses qui sont utiles et pas toujours très excitantes, mais en même temps, ils ont quand même l'immense avantage de parler à tous les directeurs informatiques du monde, en gros, et à leur dire, regardez, nous, on a cet outil-là, et en plus, ils s'intègrent déjà avec tout le reste, et déjà avec tout ce que vous avez fait. Enfin, il n'y a pas besoin de redévelopper des choses à côté, d'inventer des machins, d'ouvrir des nouvelles failles de sécurité, on gère tout, on va le gérer avec tout le reste. Et là, tout à coup, c'est vrai que ça posait problème. Je pense que Salesforce en plus c'était la meilleure piste, mais pourtant ils sont quand même bien vendus, faut imaginer, 27 milliards de dollars,
milliards, c'est
WhatsApp c'était 19, et WhatsApp c'est un truc mondial et life changing quand même dans l'ensemble. Donc non, ils sont pas, tu vois, c'est pas...
Ils sont pas vendus au rabais, on va dire. Mais le fait, en Exactement. Fait, la raison pour laquelle je pose cette question, c'est que quand une entreprise se vend, ça veut dire que, bah, comme le faisait remarquer Lucie, les perspectives de croissance semblent être peut-être un petit peu moins importantes que... Parce que si tu penses que tu vas pouvoir te vendre plus cher dans 2 ans, tu te vends pas maintenant. Si t'es convaincu de pouvoir... Et il y a eu une certaine...
Il y a un moment...
Ouais,
le timing en comédie est toujours un truc très important.
Oui, d'ailleurs, Slack a failli se faire racheter plusieurs fois. Hein. Je veux dire, je me rappelle de rumeurs qui étaient quand même très persistantes vis-à-vis d'Amazon Web Services il y a 2-3 ans. Enfin, et je pense que c'était pas encore le moment. Et là, voilà, j'ai commencé mon intervention en disant que 2020, c'était assez symbolique. Je pense aussi que c'était à la rigueur l'année parfaite pour Slack de s'intégrer à Salesforce, quoi.
Je pense du coup qu'à ce prix-là, ça veut dire qu'il y a eu, j'ai pas envie de dire une bataille d'enchères, mais disons que Salesforce ne devait pas être totalement seul sur les rangs.
Non, et puis Salesforce, ils aiment bien racheter des choses, enfin, ils aiment bien investir dans des choses, dans des startups comme ça, hein. ça c'est leur grande passion.
Ah oui, surtout le social, surtout ça, la chronique des rachats de startups de Salesforce, c'est absolument dément. C'est amusant parce que c'est tombé en plus la semaine où ils faisaient leur grande convention qui s'appelle Dreamforce. Qui d'ordinaire se fait dans le monde physique à San Francisco, mais c'est un truc monstrueux, c'est 170 000 personnes, t'imagines, enfin, c'est autant que CIS, enfin, c'est un truc de malade, et là forcément ils l'ont fait à distance, donc je peux vous faire ma prédiction de l'année qui est que ça ne reviendra jamais dans le monde réel, parce que même si c'est 50% moins efficace,
c'est la prédiction qu'on fait tous les deux mois, oui.
C'est à chaque fois, c'est au moins 90% moins cher, donc forcément pourquoi changer, mais il y a aussi un truc, c'est qu'on est quand même à un moment où il y a malgré tout, hein, énormément d'argent quoi, qui circule. C'est-à-dire que je voyais l'annonce d'une levée de fonds d'une start-up dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Exclaimer, et on voit, ils viennent de lever 130 millions de dollars. Tu dis, ah bon, mais qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, c'est une start-up qui fait un produit qui te permet de manager, de gérer les signatures email de tes collaborateurs. 130 millions de dollars.
Écoute, il doit y avoir un marché, oui.
Il y a de l'argent, hein, c'est pas... voilà.
Ok. C'est vrai que dans la tech a clairement bénéficié de cette année que Lucie décrivait comme 2020. Comment tu disais, c'est 2020. Je ne sais même pas si on a besoin d'un qualificatif, c'est juste 2020. Ça a clairement bénéficié aux géants de la tech avec les valeurs boursières qui sont extrêmement, comment dire, qui sont portées par la tech et des valeurs boursières qui ont cru de manière substantielle cette année, alors qu'elles étaient déjà importantes. Puisqu'on a parlé de Microsoft, je vais juste mentionner le fait que par rapport à ce dont on parlait la semaine dernière, eh bien, ils ont annoncé qu'ils allaient supprimer les noms individuels des personnes, des employés, de leur score de productivité, des données du score de productivité. On en a largement parlé la semaine dernière, donc ils ont déjà réagi. On s'y attendait, mais c'était tellement gros que clairement, ils ont réagi vite. Et puis je mentionne aussi que dans le domaine des retours à la réalité, Uber a vendu son département qui développait de la conduite autonome pour les voitures. Alors ça a été vendu à un rival, hein, donc ça veut dire que c'est toujours en train d'être développé, mais c'est à la fois peut-être des perspectives de voitures autonomes qui reculent dans le temps, et puis une consolidation de cette technologie, comme on le voit souvent dans ces technologies naissantes. Il y a plein de gens qui se lancent et puis au bout d'un moment, il y a une consolidation qui s'opère. C'est assez normal. Ça veut quand même dire peut-être qu'il y a un petit peu de l'enthousiasme pour la conduite autonome qui se... s'atrophie, ça serait un terme fort, mais qui se remet un petit peu dans un contexte plus réaliste, notamment au niveau de la chronologie et de ce que ça pourrait donner dans les années à venir.
Mais ça pose des questions quand même sur le storytelling d'Uber, qui est de dire quand même, bon, ah ouais, aujourd'hui, c'est qu'une étape, machin. Oui. Ils ont quand même des documents où ils disent, voilà, non, mais l'avenir, il n'y a pas de chauffeur. Enfin, très bien, mais je ne sais pas. Je ne pense pas que c'est parce qu'ils butent sur des impossibilités techniques. Hein. Je pense que c'est aussi parce que ça coûte un fric fou et qu'à un moment, ils ont fait une règle de 3 en disant, bon, alors attends, soit on continue d'investir X milliards par an pour arriver à une solution dans 5 ans, soit dans 5 ans, pour X milliards, mais qui est probablement 5 fois moins, on pourra acheter la solution de quelqu'un d'autre.
Oui, et puis il faut dire que toute cette histoire, tout cet investissement dans la voiture autonome pour Uber, ça a été un désastre. Enfin, ils s'y sont mis plus ou moins après tout le monde. Ils ont essayé de rusher le truc, ils se sont pris un procès de Google qui les a accusés d'avoir volé leur solution. Ils sont pris plus, ils ont eu un accident mortel dans l'Arizona. Enfin, ça faisait beaucoup de choses pour, comme tu dis, Cédric, un projet qui coûte énormément d'argent. Je veux dire, Uber, c'est une boîte qui cherche toujours à être rentable, hein, et c'est dans la droite lignée de la stratégie de Dara Khosrowshahi, pardon, qui est le PDG d'Uber, le nouveau PDG, enfin le nouveau. Maintenant, c'est plus si nouveau que ça, mais
deux ans, trois ans,
nouveau. Hein. Voilà, le PDG d'Uber qui a remplacé Travis Kalanick, qui était aussi celui
c'est comme blé de nombreux qualificatifs.
Oui, c'est comme, voilà, c'est comme 2020. T'as pas besoin de mettre de plus de qualificatifs. Tu dis juste son nom, on a compris.
Voilà, et c'était lui qui croyait beaucoup en la voiture autonome, et je pense que c'est aussi solder un peu de son héritage de se concentrer sur tous les problèmes que Uber a déjà à gérer, et il y en a pas mal, avant de se rajouter ceux de la voiture autonome, quoi.
On mentionne aussi dans la chatroom, avec raison, qu'ils gardent un pied dans la start-up en question, puisqu'ils auront 26% du capital. Donc ils abandonnent pas complètement le truc, ils restent impliqués, même si c'est extérieur et ça sera peut-être plus simple à gérer. TikTok, vous vous souvenez que le feuilleton de l'automne, et je crois que c'était Cédric qui nous disait non, ça va pas se faire. Il y a déjà plusieurs mois, tu avais senti le vent venir, et il y a eu des virages, hein, dans cette aventure.
Oui, ça va se faire maintenant.
Mais oui, alors attendez, bougez pas, on cherche le dossier. Ne quittez pas.
Et ben du coup, la date limite, c'était il y a quelques jours, le 4 décembre. Et comme l'avaient prédit certains, la date limite est arrivée, c'est-à-dire la date limite pour l'interdiction d'utiliser TikTok aux États-Unis. Donc la date est arrivée. Sauf que même si l'ordre de Donald Trump est resté, personne n'a demandé à qui que ce soit de supprimer l'application des App Store. Donc dans la pratique, ce que ça veut dire, c'est que on est un petit peu dans une situation. C'est pas le Mexican standoff, c'est pas ça. C'est plutôt tout le monde est figé. Et genre, on bouge pas pour espérer que personne se rende compte qu'il y a un truc qui s'est passé, même si bon.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est si tu ne bouges pas, il ne te verra pas. Tu vois, c'est Jurassic Park. C'est exactement ça. C'est le waiting game total. Genre, si on tient jusqu'au 20 janvier, rien ne bouge. Et non, mais bien sûr. C'est parce que de toute façon, il n'y a pas de solution à ce truc-là. Et même si maintenant on leur dit oui, on vous retire de l'App Store. Bah, ça reviendra parce que ça sort quand même de nulle part. Enfin, c'est ce truc où à la fin d'une engueulade, tu te souviens plus quel était pourquoi tu t'es engueulé au début. Quoi. Bah là, c'est un peu pareil. C'était quoi le problème avec TikTok? Je sais plus.
Ouais, bon, c'est un petit peu ça.
Oui, c'était une décision purement politique dans le cadre d'un affrontement beaucoup plus général entre les US et la Chine. Et je pense que la plus grosse hantise de TikTok, là, c'est qu'il y ait de nouveau une parole malheureuse ou une tension de nouveau entre le gouvernement américain et la Chine. Mais bon, là on se rapproche quand même du changement de présidence, et je pense qu'à partir du moment où Donald Trump n'est plus président des États-Unis, cette histoire est finie, en fait.
Il y a des questions légitimes qui pourraient potentiellement se poser avec Huawei et des trucs comme ça. Oui. Bah vas-y.
Ce que j'allais dire, parce que la charge de Donald Trump était peu subtile, on va dire, gentiment, mais il y a des questions qui se posent, hein, sur TikTok et sur la modération en général, et pas que sur TikTok, et j'espère à titre personnel que on continuera, c'est pas parce que TikTok est d'origine chinoise que c'est forcément une mauvaise app, mais c'est pas non plus pour autant que c'est une bonne app. Je pense que c'est une app qui a des intérêts économiques, qui prend des décisions en fonction de ses intérêts économiques, et dont la modération est pas beaucoup plus clair que le reste des réseaux sociaux.
Oui,
et
c'est ça. C'est un problème qui n'a rien à voir avec l'origine chinoise de TikTok, qui est le cœur de cette décision de Donald Trump d'il y a quelques mois.
Mais du coup, il ne faudrait pas évacuer non plus ces sujets trop rapidement. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais je serais intéressée de voir à quel point TikTok va être impliqué dans... Là, il y a beaucoup de discussions aux États-Unis, hein, sur la modération des contenus. À quel point TikTok sera inclus dans ces discussions.
Ben, ce qui est intéressant, c'est que, étant donné les menaces qui ont pesé sur leur existence, ils ont fait sans doute plus qu'ils n'auraient fait autrement pour ces questions-là. Donc, à voir si ça continuera. D'après ce qu'on comprend, il n'est pas certain que l'administration Biden change de direction de manière drastique par rapport aux problèmes qui se posent avec Huawei et ce type de société-là. Sur TikTok spécifiquement, c'est peut-être un petit peu moins l'urgence, on va dire. qu'est-ce que je voulais traiter d'autre ? Il y a quelques sujets qui restent, puisqu'on parle de réseaux sociaux. YouTube va demander désormais aux gens qui laissent des commentaires de s'ils détectent que les commentaires en question pourraient être offensants ou agressifs, il va leur dire « Vous êtes sûr que vous voulez poster ça ?» Et je suis sûr qu'il y a des gens qui rient et qui disent « Bah attends, quelqu'un qui veut poster un truc méchant, il ne va pas simplement reconsidérer la chose parce que Google lui demande. » Mais on a vu que plusieurs réseaux font ça.
Ça peut marcher.
Ouais. C'est intéressant comme sujet. Hein. C'est ce qu'on appelle la friction, la modération friction. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit des plateformes qui font le même constat que tout le monde, c'est-à-dire que la modération des réseaux sociaux est médiocre, on va le dire gentiment, et que à défaut de pouvoir contrôler tous les contenus qui sont publiés, ce qui est une tâche vaine et pas vraiment faisable, et qui en plus pose des questions juridiques complexes, de plutôt pousser les utilisateurs, les freiner un peu. Pardon, je te regarde sur Twitch, Patrick, et je te vois montrer un truc, et je comprenais pas ce que tu montrais, donc du coup ça m'a perturbé, je suis désolée.
Pour ceux qui écoutent l'émission après, il y avait une pub dans la page que j'étais en train de regarder pour Destiny 2 sur Xbox Game Pass. Donc je pointais du doigt depuis ma fenêtre sur Twitch pour dire ce jeu est bien, jouez-y pour ceux qui regardaient. Mais je voulais pas perturber Lucie dans son.
Et
dans
moi
son
je pensais qu'il était en train de me dire mais arrête, t'as trop parlé, arrête.
Ça t'aide-toi maintenant, ça va.
Mais non, certainement.
Je me disais, c'est pas très poli, t'aurais pu m'envoyer un message sur Discord.
C'est ça.
Bon, ok, je vais arrêter de bouger. Pardon, Lucie. Ça serait quand même ironique moi, je te reproche de trop parler. Hein. Mais vas-y.
Et donc, voilà. Et du coup, il y a pas mal de plateformes qui tentent ces trucs-là, qui tentent de mettre des petits grains de sable, en fait, dans notre flux continu de production de contenu, on va dire. Parce qu'en fait, c'est facile hein, de faire un tweet, de poster un commentaire, etc. Parfois, on n'y réfléchit pas trop. Et par exemple, Twitter est une plateforme qui essaye d'investir là-dedans. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, quand on veut retweeter un contenu sur Twitter...
Bien sûr.
En fait, on doit appuyer sur deux boutons plutôt qu'un. Oui. Alors, c'est pas grand-chose, mais n'empêche que Twitter croit que ça peut empêcher, enfin en tout cas faire réfléchir des gens à est-ce que j'ai vraiment envie de retweeter ce contenu crétin, violent, de désinformation, etc. Et moi, je trouve que c'est une. Alors, ça réglera pas tous les problèmes, mais je trouve ça intéressant comme voie et je pense que c'est une voie qui va se développer de plus en plus dans la modération des réseaux.
Oui, et ils font aussi la même chose avec les articles, enfin plus ou moins la même chose avec les tweets qui contiennent un lien. Si on n'a pas cliqué sur le lien auparavant, ils vous demandent « Vous êtes sûr que vous avez lu l'article ou pas ?» Alors évidemment, on peut l'avoir lu par ailleurs. Évidemment, on peut l'avoir lu par ailleurs ou l'avoir lu avant, etc. Mais c'est cette petite friction qui se retrouve maintenant. Et je pense que c'est effectivement une tendance qui se généralise un petit peu. Et puis pour parler de réseaux sociaux encore, il y a Parler, c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer avec Parler. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Parler, c'est un réseau social qui se vend comme complètement ouvert à tout type de parole. En gros, c'est le réseau de la liberté de parole. Il y en a eu d'autres par le passé. Généralement, ça devient les refuges des choses les moins recommandables de l'Internet. Et Dieu sait qu'il y a de la matière. Et il y a une analyse intéressante du Washington Post qui constate que, étant donné qu'il y a énormément de pornographie, de services d'escorte, j'utilise les guillemets, ils risquent d'avoir du mal à monétiser Parler. Et du coup, parce que c'est des choses peu recommandables, justement, et donc leur avenir est un petit peu... Alors, peut-être qu'ils trouveront d'autres solutions, mais c'est un premier retour à la réalité de ces réseaux dont on peut craindre qu'ils ne deviennent justement des bulles supplémentaires sur Internet. Le problème, c'est qu'il y a, je dirais, cette pression plus ou moins douce sociale qui s'applique dans ce genre de cas, et c'est un petit peu la société qui fonctionne par des mécanismes doux qui font que ce genre de choses n'est pas forcément viable. Ça s'est déjà vu par le passé à de nombreuses reprises et ça se constate encore une fois. Il y a encore deux ou trois sujets dont je voudrais parler. Donc, je vais accélérer un petit peu. Mais d'une part, je voudrais mentionner que Libra change de nom. Vous savez, l'association qui gère la monnaie, la crypto-monnaie de Facebook, elle change de nom. Elle s'appelle Diem. De leur propre aveu, c'est pour faire un petit peu oublier les débuts difficiles. Facebook a également lancé son conseil de surveillance qui va rendre des jugements, des avis sur la modération de Facebook. Est-ce qu'ils doivent ou non modérer ? C'est quand même des choses pas super impactantes qu'ils ont accepté de regarder, et ils ont genre 3 mois pour rendre leur avis. Donc dans 3 mois, les sujets qu'ils vont traiter, on les aura peut-être oubliés. Et je pense qu'il est de bon ton de dire « Ah, mais voilà, donc ça va servir à rien ». Moi, je suis un petit peu plus mesuré que ça, parce que j'ai l'impression que ça va peut-être servir moins que d'être la solution ultime pour la modération des réseaux sociaux et savoir ce qu'il faut modérer ou pas. Mais de la même manière que la friction dans la modération, c'est une pièce en plus qui pourra servir. Bon, ensuite, c'est plus ou moins interne à Facebook. Donc, comme on l'a vu avec Google, les choses qui sont faites en interne, ça sert peut-être plus l'intérêt de la société que...
Je ne suis pas d'accord sur l'interne. Hein. C'est-à-dire que la question, c'est ça. C'était quoi la solution ? Et depuis le début, on comprend bien que la solution interne, c'est-à-dire Facebook qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça marche pas d'abord parce que c'est un rôle qu'ils veulent pas avoir. C'est-à-dire qu'ils préféraient.
Si c'est interne, c'est à l'initiative de Facebook, peut-être qu'on peut le dire comme
oui,
ça.
Mais ça pouvait pas être à l'initiative de quelqu'un d'autre. Ça bien peut sûr. Pas être à l'initiative assez difficile. Oh, bah, ou alors faut légiférer et dire. Ouais, moi, bon. Mais à ce moment-là, tu légifères. Tu ne peux légiférer qu'à l'échelle d'un pays. Tu ne peux pas légiférer à l'échelle de Facebook.
Ouais,
et donc, de fait, juste en deux mots, hein, ce qu'ils ont fait, ils ont lâché, je ne sais pas combien, quelques dizaines de millions de dollars. Enfin, rien, un truc, un éternuement pour Facebook. Ils ont embauché des personnalités, on va dire, inattaquables sur leur expérience et tout ça. C'est-à-dire que la patronne du truc, c'est quand même l'ancienne première ministre danoise qui a été présidente du Conseil de l'Europe, etc., qui eux-mêmes en ont recruté d'autres. Au bout du bout, ils seront 40, payés, hein, avec des mandats de 3 ans, etc. Et c'est eux qui vont prendre des décisions de principe à partir de cas d'espèce. C'est intéressant parce qu'on voit là sur leur site les cas d'espèce auxquels ils s'attaquent. Alors c'est drôle, il y a des trucs sur l'hydroxychloroquine, donc forcément ça fait parler. Mais il y a des choses, tu vois, des trucs qui sont absolument récurrents. Par exemple, des images de poitrine féminine dénudée, mais dans le contexte de la prévention du cancer du sein. Alors que la nudité est interdite. Mais du coup, forcément, ça te pousse à un jugement de valeur en disant « suis-je en train de regarder une toile de Rubens ou est-ce que c'est une capture de Pornhub ?» Et du coup, ils vont juger ces cas-là, mais avec des choses qui vont faire jurisprudence pour la suite. C'est pour ça qu'ils ont reçu, je crois, 20 000 requêtes de gens dont les contenus ont été censurés, dont la circulation a été limitée par Facebook. Non, c'est intéressant. On va dire au moins que la structure, c'est un peu comme pour Libra, la structure dont Facebook s'est doté pour être à l'initiative d'un truc, mais qui va être géré quand même plutôt à l'extérieur, est au moins assez intelligente parce que, évidemment, il faut voir ce qui va en ressortir et comment ils l'appliqueront après. Mais en tout cas, sur le principe, c'est louable.
Ça me rassure que tu aies cet avis sur la chose, parce que moi, j'ai vu beaucoup d'ironie sur la manière dont c'est géré et les cas qu'ils ont choisi d'étudier. Et je trouve qu'elle est un peu injustifiée. Autant c'est souvent justifié de critiquer la manière dont Facebook fait les choses, autant sur ce cas-là, comme tu le dis, c'est une entité qui est extérieure et qui s'attaque à des cas qui ne sont pas forcément les cas les plus flashy, mais qui peuvent avoir des conséquences et sur des questions qu'on se pose légitimement depuis longtemps. Donc, quand on a l'avis du conseil extérieur, eh ben on peut se reposer dessus ensuite pour dire « Bon, bah écoutez, voilà, c'est ce qu'ils ont décidé, ils sont extérieurs, ils ont... vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais ce n'est pas juste nous qui avons pris la décision. » Donc, moi, ça me plaît. Enfin, ça me plaît. Dans une situation où, et on ne va pas refaire toutes les questions de modération sur les réseaux sociaux parce que ça nous reprendrait encore 2 heures, mais dans des situations où on n'a pas de bonne solution, celle-là me paraît être un pas dans la bonne direction.
Bah surtout, c'est un peu comme c'est chercher la démocratie. C'est peut-être le pire des systèmes, mais c'est le moins pire qu'on ait trouvé jusque-là.
Oui. J'ai l'intuition que Lucie est en train de se retenir pour ne pas venir nous contredire.
Figure-toi que je n'ai pas d'avis sur le sujet, vraiment. Je suis assez curieuse de voir comment ça va se passer. Je pense qu'effectivement, la modération est un sujet qui est super complexe et qui est plus complexe que on veut bien le croire du côté des plateformes comme du côté des politiques. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Ouais. Je suis neutre.
Bon, on attendra de voir ce que ça donne dans la pratique. Et le dernier sujet que je voulais évoquer, c'est un sujet qui est plutôt positif, qui est sur la campagne de Joe Biden aux États-Unis. Alors, on a un petit peu le savoir maintenant de la manière dont ça s'est passé en 2016 et de la manière dont, d'une manière générale, Donald Trump gère sa communication sur les réseaux sociaux et la manière dont sa campagne a géré la communication sur les réseaux sociaux et notamment Facebook pour l'élection de 2016. Mais en réalité, on ne s'en est vraiment aperçu qu'après. Et maintenant, on commence un petit peu à comprendre la manière dont se sont passées les choses pour la campagne de 2020 et notamment la stratégie de l'équipe de Joe Biden. Et il y a un article hyper intéressant dans le New York Times que je mettrai dans la newsletter, d'ailleurs, vous pouvez vous y abonner sur notrepatrick.com, sur justement cette stratégie. Et la raison pour laquelle je dis que c'est positif, c'est qu'il y a eu énormément d'efforts pour contrer le doom and gloom et le Death Star stratégie de Donald Trump, avec ce qu'ils appellent, je ne me souviens plus du terme exact, mais c'était résumé comme, je vais vous dire, les Facebook Moms. Voilà, ils se concentraient sur les Facebook Moms notamment, donc les mamans sur Facebook, et des leaders d'opinion qui étaient à la marge entre le Parti républicain et le Parti démocrate, notamment des gens comme Dwayne Johnson, The Rock, qui est une personnalité très positive et qui est historiquement un républicain, plus ou moins républicain, on va dire, central, qui a soutenu Joe Biden et Kamala Harris. En gros, ce qui est notable, je trouve, c'est que à l'entrée dans la campagne de 2020, on aurait pu dire de toute façon, le positif, c'est de la naïveté et ça ne marche plus. Et ce qu'il faut, c'est faire ce que fait Donald Trump et expliquer à tout le monde que la maison brûle en permanence. Et Joe Biden, son équipe de campagne numérique a pris le contre-pied de ça en faisant le pari avec des tests et des recherches. Bien sûr, ils ont fait ça très sérieusement en faisant le pari que justement une partie du public qui était réceptive à la politique de Biden était prête, peut-être en avait marre de la maison brûle tout le temps, et était prête à répondre à un message un petit peu plus rassurant, compétent bien sûr, parce que Biden ne sort pas de nulle part, mais compétent. Et il y a des choses très intéressantes dans l'article, notamment quand il parle de l'attaque de l'équipe de Donald Trump sur le fils de Joe Biden, sur sa capacité mentale. Vous savez qu'on l'a parfois montré dans des vidéos virales qui bégayait ou qui n'arrivait pas à faire ces phrases, alors que c'est des trucs sortis de leur contexte qu'on peut voir partout. Et en gros, la chose à retenir, c'est que dans le cadre de cette campagne-là, en tout cas, ce positif a plutôt fonctionné, ce qui est, je trouve, une petite pointe d'espoir dont on pourrait profiter dans cette année 2020, à cette fin d'année. Donc, je voulais vous en parler quand même. Voilà. C'est tout pour cet épisode du Rendez-vous Tech. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On va donc se quitter malheureusement, mais n'ayez crainte, si vous voulez plus de technologie, vous pouvez rejoindre nos co-animateurs sur leurs réseaux sociaux respectifs. Et on va commencer avec Cédric. Où peut-on te retrouver si on en veut plus, Cédric ?
Si vraiment vous en vouliez plus, mais je ne peux pas imaginer que ce soit le cas, @Cédric sur Twitter, tous mes papiers sur lci.fr, et puis mon petit podcast à moi, Les Doigts dans la Prise, où on parle de voitures électriques et de nouvelles mobilités, Les Doigts dans la Prise partout sur votre plateforme de podcast habituelle.
Magnifique, merci. Lucie, où te retrouve-t-on, dis-moi ?
Oui, eh ben moi aussi je suis sur Twitter, @LucieRonfaut, RONFAUT en minuscule. Et j'ai aussi une newsletter qui paraît tous les mercredis, elle s'appelle Règle 30, comme une règle, et le numéro 30. Et j'y parle de sujets d'inclusivité et de société en général dans les nouvelles technologies. Voilà, donc pour les gens qui nous suivent sur Twitch, je vais mettre le lien, mais n'hésitez pas à vous abonner.
Où est-ce qu'on retrouve, comment est-ce qu'on peut s'abonner ? Tu as une adresse simple
Alors, vous tapez dans Google, c'est une newsletter qui est faite avec Numérama, donc vous tapez dans Google Numérama Règle 30, vous devrez la trouver. Super. Et sinon, c'est sur mon compte Twitter, j'ai mis le lien.
Magnifique. Et le lien vers le compte Twitter sera, lui, dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce jeu de l'année Cyberpunk 2077. Sachez que j'ai fait une vidéo qui vient de sortir, qui est absolument parfaite pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir si ce jeu est fait pour vous ou pas, ou simplement pour savoir ce qu'il en retourne, de quoi il s'agit. C'est un test que j'ai fait sans avoir joué au jeu, dont vous pouvez être certain qu'il y aura absolument toutes les infos nécessaires. C'est sur youtube.com/notepatrick. Vous pouvez aussi...
Tu l'as donc fait en toute impartialité, en fait.
Ah ben, bien sûr, exactement. Si vous voulez...
Tu n'as pas laissé le jeu influencer ton opinion.
Mon avis sur
le jeu. Vraiment bien, je trouve ça assez...
Merci. Tu vois, il y a beaucoup de gens sur Internet qui parlent de l'éthique, de l'indépendance par rapport aux développeurs, aux grosses sociétés qui contrôlent le monde, tu vois. Moi, je le vis plus que je n'en parle, d'autant plus que dans Cyberpunk, le thème du monde, c'est que les grandes sociétés ont le pouvoir. Donc, c'est quand même ironique de se dire que toutes les reviews au monde, à part la mienne, ont été contrôlées par la nature du jeu. Pense que quand même, youtube.com/notepatrick et aussi, patreon.com/rdvtech pour avoir des informations sur le Patreon, sur les moyens de soutenir l'émission. Vous savez que non seulement vous serez heureux de soutenir l'émission, mais en plus de ça, vous aurez des bonus super sympas, comme par exemple les émissions sans pub, les timecodes pour aller au sujet qui vous intéresse, etc., etc. J'espère que ça vous intéressera, patreon.com/rdvtech. Je vous fais de grosses bises à tous et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.